Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Ce soir encore, on écoute les artistes pendant une heure. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On reçoit, dans Par les temps qui courent, Céline Minard.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis vêtement.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
C'est une petite bombe qui tombe bien parce que moi je ne savais plus trop quoi souhaiter pour 2019. Je m'évertuais à former des vœux de douceur, mais ce coup-ci je n'y croyais plus exactement. Alors votre roman Céline Minard est une petite bombe qui tombe bien. Je me suis mise à souhaiter de l'ivresse. De l'ivresse du présent, tout ouvrir, tout relier pour une ivresse en action. Dans votre livre, trois femmes ont infiltré un bunker ultra protégé où sont entreposées les bouteilles de vin les plus chères au monde. Elles ont des exigences et un savoir-faire extraordinaire. Elles ont un otage qu'elles convertissent à la beauté. Le braquage a lieu juste avant un typhon, c'est dire comme tout est tendu. Elles sont, elles trois, le grain de sable dans la machine, le tout avec plaisir et panache. Bonsoir Céline Minard.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Bacchante est publiée aux éditions Rivage. Et c'est votre 11e livre. Vous avez des vœux pour 2019 ? Pour le monde, pour vous, pour la littérature?
Oh, pour le monde, c'est trop vaste. Je pense que mon vœu serait pas opérant. Pour moi, je goûterais bien la Romanée Conti.
Ah ok. Très bien, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Personne ne bouge devant le bunker Alpha. La brume matinale se dissipe lentement. Elle monte et s'accroche au frondaison avant de s'évanouir. Il est un peu moins de 6 heures du matin, le vent d'est fait bruire la végétation basse. Il n'y a plus un seul uniforme dans le paysage. Les hommes armés se sont regroupés dans l'ancienne maison du gardien qui leur sert de QG depuis 59 heures. Ils ont les yeux rivés sur la porte d'acier qui devrait s'ouvrir dans quelques minutes pour la troisième fois consécutive depuis le début des opérations. Ils ne tenteront pas ce matin un nouvel assaut. Ils attendent les ordres. Le négociateur est arrivé au milieu de la nuit. Il a besoin d'un contact direct avant de décider d'une méthode d'action. Il a lu et mémorisé les rapports des deux derniers jours. Il est concentré sur les sons. Des perches mini-boompole ont été installées durant la nuit au-dessus de la porte Alpha dans l'angle mort de la caméra de surveillance extérieure. Ses oreilles sont prises dans les coussinets enveloppants d'un casque à réduction de bruit. Il est coupé de son environnement sonore immédiat. Il regarde monter la vapeur qui s'échappe de son mug de thé noir. 20 secondes avant que la porte ne s'ouvre, il sursaute. Il analyse le bruit de chacun des pas déroulés sans précipitation sur les 9 mètres du corridor souterrain, baisse le volume d'un coup quand l'acier blindé lui vrille les tympans en cognant contre les murs de l'entrée du bunker. La porte est ouverte. Une main gantée apparaît, pose une bouteille au sol, la couche. Tandis que la main prend appui sur le ventail, un pied chaussé d'un escarpin noir sort de l'entrebâillement, se glisse sous le corps de verre et lui impulse un vif mouvement rotatif. Avant que la bouteille ne se stabilise au milieu de la chaussée qui longe le bunker, l'acier claque à nouveau. Un rayon de soleil traverse le reste de brume, inonde l'asphalte et le liquide doré qui clapote comme un lac contre la paroi du verre. Le négociateur écoute encore une minute et enlève son casque. C'est une femme. Ou un type qui porte des escarpins. Céline Minard, je viens de lire le début de votre roman Bacchante. Et comme souvent, pour ne pas dire comme toujours dans vos textes, on arrive quand tout est déjà là. Et ensuite, il ne reste plus qu'à vivre ce qui va se vivre et se passer. Est-ce que c'est comme ça que votre écriture procède ? Vous débarquez quand tout est déjà là ?
Oui. Oui, oui, effectivement. Je débarque quand j'ai tout dans la tête, en gros, et en particulier aussi. Et ça démarre au milieu, parce que je démarre au milieu, toujours. Parce que toutes les histoires démarrent au milieu, en fait.
C'est-à-dire ?
Mais le monde est là et on commence à raconter quelque chose qui arrive au milieu du monde et tous les milieux s'entrecroisent. Je pense que, enfin, c'est jamais ex nihilo. Le monde préexiste et l'histoire qui va se raconter et le construire en même temps est déjà faite, en fait.
C'est pour ça que ça sert pas à grand chose de la raconter, celle qui était avant, l'histoire qui était avant.
Parce qu'elle est contenue d'une certaine façon. Je pense qu'il y a des endroits de métonymie ou de densité qui sont tels que le passé et l'avenir sont dans ce moment présent, en l'occurrence de l'action rapide.
Ça veut dire que vous passez des mois ou quoi, des jours, des semaines à ne pas écrire et à faire en sorte que tout soit là ?
C'est ça. Je passe des mois, pas des semaines, des mois. Oui. Beaucoup de mois, des fois. À ne rien faire, prétendument, enfin visiblement, et à me nourrir de tout ce monde qui est en train de se construire, parfois à mon insu quand même. Et enfin, c'est pas tout à fait un moment que je maîtrise, parce que c'est là où se font des rencontres inattendues qui vont cristalliser ou pas. Hein. Mais oui, ça dure des mois et j'ai des recherche plus précise, plus déterminée et déterminante. Et là aussi, je me mets à creuser. Donc, en creusant, on trouve des filons à droite, à gauche, auxquels on s'attendait pas. Et puis, je continue à creuser jusqu'à ce que je me dise, attention, il faut arrêter, parce que là, t'es en train d'éviter de passer à l'écriture. Ce que j'essaie vraiment de repousser le plus loin possible à chaque fois. Et puis, à un moment, j'ai la première phrase aussi.
Ça commence comme ça.
Oui.
Et si vous pouviez, vous retarderiez encore et encore le temps de l'écriture.
Ouais, oui, parce que c'est quand même c'est difficile de s'y mettre. Et alors que la recherche comme ça, aller fouiller, aller chercher partout, c'est plutôt excitant. Et puis ça reste en formation, donc c'est très prometteur. Après, dès qu'on s'y met, ça réduit. Mais pour moi, il faut beaucoup de matière pour une belle réduction. Faut que ça mijote longtemps, après ça fait quelque chose de plus complexe aussi.
Quand vous dites dans ces mois-là, il y a des rencontres qui permettent à un moment donné de cristalliser, ce sont quoi des rencontres avec des textes, avec une bonne bouteille de vin, avec des gens, avec des paysages ?
Oui, avec tout ça, oui. Avec des textes, avec des films, avec des lexiques aussi, avec... voilà, j'ai souvent tendance à aller fouiller chez les gens assez spécialisés. Donc, mais c'est là où ça peut devenir un peu vertigineux, parce qu'il faudrait faire des études de tout le temps, pousser. Mais ça, c'est pas possible. Donc il faut ramasser le maximum mais il faut le digérer aussi. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'un vocabulaire, il faut l'intégrer. On peut pas le placer ou le poser en juxtaposant à une intrigue, ça n'a ni sens ni intérêt.
Quand vous dites ce sont des mois où je fais prétendument rien, ça fait que c'est une drôle de vie ?
Oui. Ah oui, mais c'est une drôle de vie, oui. Oui, oui, mais c'est ce qu'on peut penser de l'extérieur, que je fais rien. Mais c'est pas ce qui se passe, parce que je fais plein de choses. Et c'est très fatigant, mais c'est très prenant, c'est... Oui, on pourrait croire que je fais rien. Après, quand je m'y mets, je fais pas grand chose non plus. Ça reste assez court dans ma journée, mais je mets la journée à m'y mettre. À rien faire avant de faire quelque chose, pour laisser assez d'espace pour que ça se pose, que ça arrive sur le papier.
Parce que cette première phrase comme ça, elle ne pourrait pas se poser s'il y avait trop de choses avant.
Ni s'il y avait trop de choses, ni s'il y avait rien. C'est cette espèce de c'est un équilibre assez bizarre. Il faut que ce soit à la fois très nourri et à la fois très dégagé. C'est un espace contradictoire.
Justement, puisqu'on parle d'espace, et Dieu sait si c'est très important dans la manière dont vous écrivez ou dans les choses que vous écrivez, Céline Minard, cette première phrase arrive et d'un seul coup, il y a aussi le bunker qui arrive directement. Ce sera un espace très confiné, très fermé, presque, j'allais dire, extraordinairement jouissivement fermé, puisqu'elles vont faire complètement autre chose de cette fermeture, ces trois femmes. Et précisément, ce braquage, on ne le voit pas. L'explosion, elle sera pour partir, mais ce n'est pas l'explosion qui est l'explosion de l'effraction. Quand on arrive dans le texte, tout le monde est déjà à l'intérieur. Il n'y aura rien qui sera forcé sous nos yeux. Et ça, je me suis dit qu'il y avait forcément du sens là-dedans.
Ah oui, tout à fait. Évidemment, elles sont rentrées, on ne sait pas comment, et c'est un charme. C'est pas du tout, justement, un forçage. Parce que généralement, un braquage, en gros, c'est un viol. Il y a toujours, il faut forcer le coffre, la porte, etc. Et moi, j'avais très envie d'écrire un braquage à nouveau, parce que c'est pas mon premier, mais un peu plus détaillé, juste le braquage, une espèce de focale sur ce moment-là, mais certainement pas sur cette action première, primitive, qui généralement fait beaucoup la substance des films ou des récits de braquage. Au contraire, ça passe comme une lettre à la poste, et il y a un tout petit début de réponse à l'intérieur du texte sur comment elles ont fait, mais c'est vraiment de l'ordre de la magie et du charme.
Et l'excitation, y compris fictionnelle, n'est pas là. Et ça, c'est vraiment à l'endroit où ça se déplace. C'est-à-dire que si on prend plus précisément les films de braquage, mais aussi dans le motif littéraire, toute l'organisation, la préparation, ce moment où on fantasme, le moment où tout va péter pour rentrer, met l'excitation fictionnelle à cet endroit-là. Alors que là, il est complètement déplacé, mais du coup, ça ouvre que autre chose est possible.
Oui, c'est vrai, c'est complètement retourné en fait. C'est pas le moment, c'est effectivement, elles sont préparées, on le comprend. Elles sont compétentes, elles sont déterminées.
Elles connaissent les plans, on le sait aussi, elles ont préparé des choses, on le sait.
On le sait, et on sait qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Mais c'est pas là que ça se passe effectivement, parce que ça c'est réglé, ça roule. Et ça se passe à l'intérieur du bunker. Et qu'est-ce qui se passe, c'est la question qu'elle pose. Qu'est-ce que les autres veulent qu'il se passe aussi? Qu'est-ce qu'ils vont les laisser faire ou les laisser ou pas du tout les laisser faire? Mais pourquoi elles sont là, ça c'est pas immédiatement clair.
Et d'ailleurs, peut-être que ça ne sera pas tout à fait ou complètement à la fin du texte, et ce sera aussi le décalage entre ce qu'elles veulent elles profondément et l'endroit du désir. À un moment donné, elles adressent la question du désir à leur otage, mais toi tu veux quoi? Il est où ton désir? Il va falloir un peu le regarder en face. Et puis tout ce que autour on attendrait d'elles, les médias, les négociateurs, la police qui est en place, l'otage lui-même, projette des choses que elles ne résoudront pas de cette manière-là. Pour reprendre Céline Minard, l'idée de cette exposition, la situation dans laquelle nous arrivons, ça arrive aussi avec des images très fortes. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de voir brigade d'intervention criminelle, attentat du 13 novembre, petit matin à Saint-Denis, au moment où un immeuble va être forcé parce que des criminels s'y trouvent. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que ce texte-là, si jouissif, si charmant au sens de la magie du terme, était peut-être aussi né de l'extrême violence.
Oui, sûrement, c'est des images extrêmement récurrentes qui sont ce dont vous parlez là, qui sont des images presque quotidiennes maintenant qu'on voit ou revoit ou re-revoit. Il y en a d'autres en ce moment d'ailleurs, hein. Et certainement que ça imprègne les désirs d'écriture, quoi. Mais aussi pour détourner ça et pour en jouer et pour pas ridiculiser mais mettre un peu de distance avec toute cette technique aussi d'intervention et d'interventionnisme, de siège et de prise de siège, quoi.
Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu un moment où justement, puisque la question de la violence, y compris de la violence sociétale, de la distance qu'on peut prendre avec cette violence-là, est aussi au cœur du travail que vous faites d'un point de vue littéraire, est-ce que ce passage-là, dont on n'est pas sorti, mais qui a été très aigu fin 2015, a rebattu les cartes de votre écriture, Céline Minard? Ou vous a posé une question sur la position dans laquelle vous vous trouviez, avec le langage?
C'est difficile de savoir ça, en fait. Moi, j'ai tendance à vouloir rester très lointaine de tout ce qui est trop chaud dans l'actualité et d'essayer de prendre de la distance. On ne peut pas toujours la prendre. Il y a des réactions absolument spontanées et aussi violentes. Est-ce que ça change quelque chose dans le langage ?
Ou je ne sais pas, même concrètement, est-ce que ça vous a empêché d'écrire ou invité à écrire ?
Ni l'un ni l'autre. Ni empêché, ni invité. Certainement pas invité, en tout cas. Non, mais il y a peut-être quelque chose dans l'efficace qu'on demande à tout le monde de déployer dans toutes sortes d'endroits, de lieux, de métiers aussi. Et ça, sûrement dans ce texte-là, ça a eu un effet. Enfin, c'est pas une injonction. Hein, je joue aussi avec ça. Mais ce texte-là devait être à la fois très bref et très fort en alcool. C'est pas du vin, c'est plutôt un shot de tequila, quoi, qu'il faut, à mon avis, lire comme ça. D'ailleurs, un coup, on peut se resservir après, on peut relire. Mais certainement, oui, cette espèce de nécessité de l'efficacité, de la rapidité, c'est peut-être quelque chose qui passe par moi sans que je m'en rende tout à fait compte. Ou que ce soit ces causes-là qui...
Mais alors ça veut dire que... Parce qu'en effet c'est un texte qui est très efficace, mais au sens de la petite bombe dont je parlais au départ. Alors ça veut dire qu'à cette injonction d'efficacité adressée à tout un chacun et tout un chacune, vous dites ok, pourquoi pas, mais alors dans ces cas-là je vais faire en sorte que ce soit une efficacité qui aille dans mon sens.
Ah ben oui, d'accord, on va le faire, mais je vais le faire. Je vais être très efficace, mais à l'intérieur de cette efficacité, va y avoir un espace de vin qui va être une éternité, même si ça dure 3 jours ou 2 heures.
Je me demande souvent à quoi bon continuer à faire des phrases. Je me le demande très 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 souvent et très sérieusement. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait une énergie qui m'anime. Il faut que je voie un plaisir partageable pour passer du temps à écrire des phrases. Parce que je peux faire plein d'autres choses dans la vie. Je peux faire du kayak, je peux faire de la menuiserie, je peux faire n'importe quoi. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Je peux faire le DJ, je peux danser, je peux écouter de la musique. Pourquoi passer du temps de la vie à écrire des romans ? Je pense que le plaisir de langue est probablement ce qui porte le plus ce roman, et aussi une certaine forme donnée au temps. Voilà. Donc, j'en doutais, je n'étais pas sûre d'y arriver, je n'étais pas sûre que ça ferait un roman, je n'étais pas sûre de la forme, parce que c'est un prototype, je ne suis pas une recette déjà faite et établie. C'est pour ça aussi que j'écris peu, je ne fais que des prototypes, je ne fais pas de la voiture de série. Je construis pas en série des romans. Donc à chaque fois, il faut que je réinvente la roue, si vous voulez, que je réinvente le béton, que je réinvente des manières de faire et des manières d'écrire.
On est en 2017, c'est Anne Garetta qui était venue en parler Temps qui court pour parler de son roman Dans le béton, paru aux éditions Grasset. Pas mal de choses auxquelles on voudrait vous faire réagir, Céline Minard, dans ce court extrait. Peut-être l'idée qu'il y a plein d'autres trucs à faire dans la vie que de former des phrases et d'écrire des bouquins. Alors si on le fait, vaut mieux que ça donne du plaisir. Vous, est-ce que c'est une question que vous vous posez ? Faire autre chose qu'écrire ?
Non, enfin, si c'est marcher en montagne, tout ça, du kayak, non. Hein. La menuiserie, non plus. Mais...
Danser ?
Mais effectivement, je peux faire plein d'autres choses, mais en fait, non. Puisque ça va quand même mener à quelque chose qu'il faudra, que j'aurais envie de construire dans la langue écrite. Donc je peux me dire, je vais essayer, je me le dis régulièrement, je vais faire autre chose, machin, parce que c'est difficile de vivre de ça quand même. Mais ça, rien d'autre m'intéresse en fait. À ce point-là, rien d'autre.
C'est difficile de dire pourquoi ?
Non, c'est pas difficile parce que c'est un super pouvoir. On peut tout faire, on peut tout réinventer, y compris la roue, comme dit Anne Garetta. Et il faut le faire d'ailleurs. Et on manipule le monde entier si on veut bien le faire. Je veux dire, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une activité équivalente? Non. Enfin, dans les autres arts, sûrement. Mais sinon, non. C'est le super pouvoir. Je suis pas prête de renoncer à ça.
Et ça tient à la fiction.
La super puissance, hein. C'est pas un pouvoir. C'est ouais.
Et ça tient à la fiction ou ça tient à la langue ou ça tient aux deux?
Ça tient aux deux. Moi, je tiens beaucoup à la fiction et à la narration. Mais ça va jamais sans une langue et sans une tonalité et sans une sonorité particulière. Chaque livre, chaque mouvement de livre induit un ton et une rapidité, une vitesse spécifique.
D'ailleurs, on est passé rapidement tout à l'heure, mais en fait, l'incipit, c'est quand même quelqu'un qui essaye d'écouter le plus précisément quelque chose où il n'y a pas d'image. Les micros sont mis à l'angle mort de la caméra de surveillance pour dire que peut-être qu'il y a quelque chose à entendre plutôt qu'à voir. Est-ce que ça renseigne sur votre écriture, Céline Minard?
Oui, cette attention au son, c'était... aussi parce que avant l'image et l'image cinématographique, en l'occurrence, parce que ça fonctionne très bien comme image visuelle, image mentale visuelle, cinématographiquement référencée.
Ce livre-là?
Oui, enfin le début, quoi, cette première scène. Je me disais, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'image, donc comme c'est elles qui vont décider si elles vont montrer ou non quelque chose, mais eux ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, ils ne peuvent pas rentrer, et ils ne savent pas qui est à l'intérieur, donc ils mettent en place des systèmes pour essayer de l'entendre, puisqu'ils ne peuvent pas le voir. Mais oui, c'est les textes que j'écris, il faut presque les lire à voix haute. En tout cas, moi, quand je lis, je prononce tout, y compris les virgules et les points et la suspension. Et j'écris comme ça, en prononçant tout. Donc, c'est aussi un guide pour mener une phrase, la terminer.
Et justement, quand Anne Garetta dit « si je continue d'écrire, c'est parce que je trouve un plaisir fort, une jouissance forte dans la phrase. » Et que peut-être le sens de le faire, c'est ça. Vous la rejoignez?
Ah oui, oui, complètement. C'est fait. Le plaisir du texte, c'est très particulier. Elle parle d'un plaisir de langue, mais ce que je peux partager aussi. Mais c'est un état du langage et c'est un état du corps aussi. Il y a quelque chose de... Quand j'écrivais « Faillir être flingué », avant de commencer ma journée à rien faire, avant de faire quelque chose, je lisais toujours le même poème devant les montagnes, là, pour moi, hein, mais à voix haute, et qui est un poème indien, qui n'a pas beaucoup de sens immédiat. Ça parle de chevaux, ça parle de couverture, mais on comprend pas trop ce qui s'y passe, mais qui est très rythmique. Et une fois que j'avais lu ça, j'étais dans l'état de langue et dans l'état mental qui allait me permettre de marcher comme dans la langue, alors que je marchais dans les prés.
En direction de votre texte.
Voilà, exactement. Et c'est vraiment un état particulier, comme je pense que les danseurs ont parfois des états de corps qui sont celui de la danse et pas celui de « je vais faire les courses ». Ça n'a rien à voir. C'est le même corps, c'est la même langue, mais l'état n'est pas le même.
Et dernière chose dite ou prononcée dans cette archive d'Anne Garetta, c'est l'idée d'écrire des prototypes. Je n'écris pas des livres à la suite et des romans comme ça à la chaîne, mais à chaque fois, j'essaye un truc. Et on a beaucoup dit qu'à chaque fois, vous essayez des choses, Céline Minard. Et à la fois, je trouve que c'est vrai et pertinent, parce qu'on pourrait s'attacher à parler de la question du genre, et en même temps, je ne suis pas complètement satisfaite de cette idée-là. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes la meilleure personne pour en discuter.
Ou la pire. Mais moi, j'ai l'impression d'essayer de construire une nouvelle cabane à chaque fois, d'inventer un nouvel habitat ou une nouvelle façon de marcher. Mais je sais marcher sur deux pattes, donc il va falloir tricher avec ça, c'est-à-dire oublier et puis réinventer. Ou disposer autrement, ou prendre autrement, selon d'autres angles.
Préciser ma pensée, je ne suis pas hyper satisfaite de l'idée que Faillir être flingué, c'est un western, que le grand jeu, c'est un récit survivaliste, que ça, c'est un récit de braquage. Il y a quelque chose qui me semble manquer à l'appel quand on dit ça.
Ah oui, ça manque à l'appel, ça manque à plein de pelles d'ailleurs, à grand coup de pelles. Parce que je fais évidemment pas ça. Ça m'intéresserait en rien de me dire, tiens, je vais me faire un western, je vais me faire un braquage, je vais me faire un péplum. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et c'est pas du tout comme ça que j'arrive à écrire. Je pourrais pas, en fait. C'est plutôt justement des rencontres, comme je disais au début, des faisceaux à la fois de sens, de son, de forme. Mais il y a toujours plusieurs formes dans mes formes. Et c'est vraiment une histoire d'étirer ou de contaminer ou de faire passer une forme dans une autre. Et de voir jusqu'où ça tient, jusqu'où ça pète, comment on fait. C'est beaucoup de rustines, il y a du bricolage. Mais c'est pas du tout... paf, 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 ciblé comme ça, non, tout au contraire, à vrai dire.
Plus que d'ailleurs le genre du braquage, si tant est qu'il existerait d'un point de vue littéraire, ce qui me semble intéressant, là, avant qu'on parle de l'éternité de l'ivresse, c'est le bunker. Qu'il y a un truc dans cette forme-là, dans la fermeture, qui préside au texte. Alors, est-ce que vous sauriez dire si ça a été un des choix importants?
Ça a été un des choix importants, le bunker. Ça c'était vraiment... Et j'ai beaucoup regardé le livre de Virilio dessus, d'ailleurs, parce que cette architecture furtive, aux angles très effacés, comme... c'était passionnant. Et puis, il y a des murs à fruits. Alors, ça, je trouve ça génial.
Parce c'est quoi
que... c'est une technique de maçonnerie. Mais alors, comme moi, je mets des bouteilles de vin contre ces murs à fruits, ça faisait presque une nouvelle interprétation de murs à fruits, quoi. Et cette, voilà, ça, les épaules basses, les bunkers et tout ça, c'est très... En même temps, c'est très violent. Je connais ça depuis l'enfance, en Normandie, sur les plages. C'est masse grise, souvent enfouie à moitié dans le sable, etc.
Dans la végétation.
Et dans la végétation, mais sur les plages, c'est vraiment... En plus, c'est le sable coule dessus. C'est fait pour ça, d'ailleurs, hein, pour que toutes les vibrations dégringolent dans le sol et soit absorbé. Donc ça, c'était vraiment un lieu presque de souvenir. Oui. Et c'est fantomatique, puisque ces bunkers-là, en tout cas sur ces côtes-là, sont à la fois déserts et à la fois habités, graffités. C'est assez complexe.
C'est aussi des lieux de fête, des lieux de retrouvailles,
aussi, oui.
Des lieux de feu de joie. C'est des endroits qui sont qui ont été aussi très transformés par le temps, ces bunkers-là.
Ouais, et en même temps, ils s'affaissent un peu, ils se chargent un peu, mais pas tellement. Ça reste une masse, une espèce de masse creuse, presque pas tout à fait visible. Bon, les bunkers là dans mon livre, ils sont en état de fonctionnement, donc ils sont vraiment fermés et sécurisés et ils ont gardé en fait cette fonction de refuge et de résistance.
Et justement, le fait que ça se passe à l'intérieur, comme pour le faire péter de l'intérieur.
Ah oui. Ça pète de l'intérieur, oui, complètement. Ça peut péter de l'intérieur, en tout cas. Ça, c'est la menace qu'elles mettent en place très vite. C'est de l'intérieur que ça peut péter et ça peut détruire toutes les bouteilles. Ce pourquoi elles sont peut-être pas là, quand même.
Thank you.
France Culture par les temps qui courent. Marie Richeux avec Céline Minard.
La brune vient d'apparaître à l'écran. Une étole de soie pliée sur la longueur est nouée autour de son cou et retombe comme une cravate entre ses seins. Jackie Tran sent un frisson lui chatouiller le bout des doigts de pied. Enregistrez notre conversation, monsieur Cherry. Vous en ferez des analyses passionnantes quand tout sera terminé. Mais commencez par écouter. Nous détenons des otages. Nous sommes prêtes à les exécuter. Tous. Un par un ou ensemble. Nous avons le choix. Nous sommes dans un lieu qui résiste à des pressions formidables. Celles que vous tentez d'exercer sont dérisoires. Nous sommes dans une île, dans une cité, dans un submersible, inexpugnable. D'un entrepôt, nous avons fait une campagne. Les richesses circulent à l'intérieur, de l'intérieur. Nous n'avons, et elles n'ont aucune raison d'en sortir puisque nous sommes là où vous ne pouvez être. Que nous avons tout ouvert, tout relié. Réfléchissez. Et déposez mon nécessaire à maquillage dans 10 minutes devant la porte puisque ça vous fait plaisir. Le négociateur n'a pas le temps de répondre, l'image saute et disparaît. Jackie Tran n'a plus de frissons mais des fourmis dans les mains. On appelle l'armée ? Qu'est-ce qui vous prend, Marwan ? Elle vous énerve ? Non, je plaisantais. Sergent, passez-nous les crèmes et les babioles que vous avez rapportées, on va leur faire un petit paquet cadeau avec. Je ne suis pas sûre qu'un explosif serait bien perçu. Oui, bon, un micro dans le tube de rouge à lèvres, c'est possible ? C'est possible, parfait, vous avez 6 minutes. Céline Minard, c'est un extrait de Bacchante, le texte que vous publiez en cette rentrée littéraire de janvier chez Rivage. Un extrait dialogué, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de ça. Un des plaisirs dont je parlais tout à l'heure, plaisir à la lecture, est un plaisir des dialogues. Comment y avez-vous travaillé ? Vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de rustine, beaucoup de bricolage, beaucoup de travail. Est-ce que ça a été le lieu de ça ?
Non, pas vraiment. Mais quand je parle de rustine et de bricolage, c'est plutôt sur le déroulement de l'action, les choses possibles, pas possibles, vraisemblables ou pas vraisemblables. Après, c'est pas tant dans le texte et pas dans les voix ni dans les dialogues. Moi, je travaille ça comme, enfin, je sais pas, je prends toutes les voix dans ma tête. Il fallait des dialogues rapides puisque tout est rapide et surtout les échanges que ça aille. Vite et fort et tout de suite à l'essentiel en fait. C'est pas vraiment une négociation, c'est une série d'ordres et de réactions et c'est comme une blitz quoi.
Et d'ailleurs c'est ce qui en fait le rire quoi, parce qu'évidemment c'est quand même des moments extrêmement drôles, bien que, et j'aimerais bien qu'on y revienne, la prise de parole de la brune est tout à fait politique, mais ensuite on rigole de sa demande d'avoir du maquillage très très précis, on rigole de la manière dont vous ridiculisez par un moment les négociateurs et les quelques policiers qui sont là. Ça veut dire que c'était aussi un moment de rigolade pour vous ?
Ah oui, oui quand même. Oui, je me suis bien marrée. Il y a 2-3 répliques qui me font encore sourire. Donc,
c'est
bon signe.
Alors, pour revenir sur cette prise de parole de la brune, paraît difficile de ne pas penser quand vous lui faites dire c'est une île, on a fait une campagne, les richesses circulent de l'intérieur vers l'intérieur. Difficile de ne pas penser à des zones d'autonomie, à des endroits d'occupation politique, à des revendications qui sont de cet ordre-là. Est-ce que c'est difficile de ne pas y penser pour le lecteur? Ou est-ce que c'est complètement consciemment instillé par l'auteur ?
Mais ce qui est complètement conscient, c'est qu'elle retourne ce lieu et qu'au lieu d'un lieu de confinement et d'entrepôt, elles en font un lieu de vie, effectivement. Et qu'il n'y a plus nécessité de... Oui, c'est une zone autonome, mais de toute façon, il y a toujours un truc d'autonomie dans mes affaires, ou de recherche de ça. Jamais tout à fait possible non plus, pas totalement. Mais là, c'est encore une autre forme de ça. Et ce serait plus le retrait, l'enfoncement. Que l'ouverture et d'aller se percher sur une vire.
Qui était le cas pour le grand jeu.
Ouais. Et, Et donc oui, il y a ça, il y a ce lieu, on le retourne complètement, d'abord on entre dedans alors qu'on ne devrait pas, et c'est vous qui ne pouvez plus entrer, parce que c'est quoi posséder un lieu, enfin en être propriétaire, c'est bien pouvoir entrer et sortir, c'est en user, mais c'est pouvoir circuler dans et autour et dehors de ce lieu. Donc c'est là, c'est elle qui et tout ce système de sécurité s'inverse à partir du moment où elles sont entrées. Et ça n'est plus un entrepôt, mais un lieu où possiblement vivre, et peut-être longtemps, parce qu'en plus, il y a de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut.
Est-ce que c'est la seule dimension politique de ce texte-là, Bacchante, Céline Minard ?
Sûrement pas. Je pense que ça parle aussi de la valeur, de la thésaurisation, du capital, bien au chaud dans les banques, quelque forme qu'elles prennent. Et le vin, en l'occurrence, c'est ça. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de boire la valeur marchande, de faire en sorte qu'elle soit détruite par l'usage même pour lequel est fait le vin, c'est-à-dire être bu quand même. C'est une monnaie d'échange, ou parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se règlent avec cette matière-là et cette fiscalité-là liée au vin, et des choses importantes financièrement. Mais ce qui m'intéressait dans cette idée, c'était qu'on pouvait aussi le boire.
D'ailleurs, la première bouteille qui apparaît sous nos yeux, très rapidement, on se demande si c'est du vin ou si c'est de la pisse. C'est bien dire que la valeur, elle est passée par le corps.
Oui, c'est ça. Et une fois qu'elle est passée par le corps,
elle vaut plus grand-chose. Assez rapidement aussi, les étiquettes vont sauter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlent pas de grands crus. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas connaisseuses. Et elles vont assez vite discuter avec quelqu'un qui l'est encore plus, puisque Kotzer les rejoint dans le bunker. Mais ça veut dire quoi? Qu'au-delà de l'étiquette et de l'année et du nom, ce qui compte, c'est le breuvage.
Bien sûr. Ce qui compte, c'est de le goûter. Ce qui compte, c'est d'ouvrir la bouteille, d'attendre qu'elle s'aère, de verser le vin et de le goûter, de le boire, mais d'en faire l'expérience et de l'incorporer. C'est fait pour ça.
Je voulais qu'on parle aussi des dialogues, parce que ça fait référence, on a dit tout à l'heure, qu'il n'est pas ou assez peu question du genre, mais quand même, c'est très cinématographique. Il y a plein de moments où on a quelques images de films qui viennent en tête, et l'efficacité dont vous parliez tout à l'heure est aussi une efficacité de cet ordre-là. Est-ce que vous avez travaillé avec des films en tête ?
En tête, non, mais j'ai travaillé avec une sorte de soupe de films en tête. C'est parce que je m'étais immergée effectivement dans une espèce de bain de cinématographique autour du braquage et tout ça, mais j'avais pas un film précisément en tête. En revanche, j'avais des scènes de Dog Day Afternoon qui m'ont vraiment déclenché des choses, parce que des choses par rapport aux caméras, la présence des caméras, à leur fonction.
On redit juste, on resitue un tout petit peu ce film,
oui,
de Lumet.
Lumet. C'est un film de braquage dans lequel joue Al Pacino, très jeune.
Incroyable.
Et c'est des vrais branques, les deux types qui rentrent pour braquer une banque dans laquelle il n'y a rien. C'est génial.
$2000, hein, ils ouvrent les coffres.
Il n'y a rien.
Ils ouvrent les coffres et puis ils sont là. Non, mais c'est pas possible.
C'est pas possible.
Tout a été déplacé dans l'après-midi. On vient de faire tout ce bordel pour rien, en fait.
Pour rien. Et ils rentrent le premier. Voilà, le début de l'action. C'est Al Pacino qui rentre avec un énorme, comment,
paquet cadeau pour fleurs.
Voilà, de fleurs pour des glaïeuls. Enfin, un grand truc. Et il sort de là une pétoire. Mais évidemment, il s'en mêle avec le nœud. Il n'arrive pas à sortir le fusil. Enfin, ça commence très fort. Et après, il découvre que la cave est vide. Mais se met en place tout un système d'échange avec l'extérieur, effectivement, qui passe par la télé, donc par les spectateurs. Et il y en a certains qui sont physiquement présents. Et il y a quelque chose d'une revendication très politique à un moment, quand il sort avec un mouchoir blanc et qui finit par gueuler « Attica, Attica » devant toute la foule, comme s'il était déjà en prison en train de monter une émeute. C'est un super chef-d'œuvre.
Et quelle autre scène de ce film-là? Parce qu'il y en a plein. Il y a quand il arrive un petit peu à la fin, que tout ça tourne mal, mais qu'il a obtenu quand même deux ou trois garanties de pouvoir s'en aller. Il fait un testament qui est incroyable, qui est un moment d'une émotion incroyable où il lègue une partie de cet argent à son compagnon pour qu'il change de sexe. Il dit, et puis s'il y a encore de l'argent, un an après ma mort, devant ma tombe, tu pourras récupérer le reste. Je t'aime comme aucun homme ne t'a aimé. C'est un film où qui n'est jamais que non plus dans le total burlesque, que dans l'espèce de grande blague. C'est très très émouvant.
Ah, je crois que c'est pas du tout dans la grande blague en fait. C'est un vrai film tragique. C'est pas du tout. Je pense pas que j'ai souri à un moment ou un autre.
Même enfin, quand il s'emmêle les pinceaux avec le...
Oui, ça c'est rigolo, pas. Mais en même temps, c'est cette maladresse qui fait aussi que l'action est parfaite, alors qu'elle est vouée à l'échec, évidemment, et qu'on le sait. Mais ça fait la grande beauté aussi esthétique de tout le film. Tout ça ne repose que sur une série de maladresses. Mais effectivement, en tout cas, le motif profond de ce braquage, c'est effectivement ce qui est complètement invraisemblable. C'est 73,
72.
72.
À New York, aux États-Unis. Ouais.
Et on parle de quoi? D'un changement de sexe. Et Al Pacino fait ce braquage pour que ça puisse
d'ailleurs,
avoir lieu.
D'ailleurs, à un moment, les citoyens qui sont réunis comme ça près des policiers et qui sont à suivre l'action qui s'étale sur plusieurs heures, il y a une espèce de manifestation pour les droits homosexuels et qui disent « Sonny, avec nous !» Et d'un seul coup, tout devient extrêmement politisé, c'est-à-dire entre deux branques qui viennent pour braquer une banque, finalement, il y a plein de choses de la société américaine de l'époque qui se mettent en place. Mais eux, ils le font pour l'argent. Vos braqueuses, vos bacchantes, elles le font peut-être pour l'ivresse.
C'est Baudelaire qui écrit cette chose très belle, qui dit « enivrez-vous », il dit, c'est ce que je pense vraiment, il dit « il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. J'aime beaucoup ça.
Il le chuchote, j'aime beaucoup ça. Ça, Reggiani, il faut voir l'image. Hein. C'est une archivina où il est au micro de Denise Glaser en 1968 et il lui dit ce poème. Et puis on voit pas le visage, pendant tout le moment du poème, on voit pas le visage de Denise Glaser, mais on voit le visage de Reggiani qui s'approche comme ça avec son regard, son sourire. Puis on sent presque le poème comme de l'alcool, comme du vin qui circule. Alors une des hypothèses, c'est que vos braqueuses, vos bacchantes, elles le fassent pour ça, pour l'ivresse.
C'est une des hypothèses tout à fait plausibles.
Au sens large du terme, évidemment, pas uniquement l'ivresse qu'elles trouveront dans la consommation de ces bouteilles d'alcool, mais l'ivresse du geste, l'ivresse de la beauté d'être là, l'ivresse de préparer l'explosion finale.
Oui, la gloire du geste complètement vain.
Tel qu'elle le dit.
Assez, ouais, assez absurde. Oui, mais vain, oui. Ils sont peut-être là aussi pour boire un bon coup. Hein. Ça peut être très simple.
Comment vous avez choisi que ce ne serait pas des billets, que ce serait des bouteilles de vin, Céline Minard?
Ah, parce que ça ne m'intéressait pas, les billets. Parce que pour sortir, pour profiter des billets, il faut sortir. Et je n'avais pas envie d'être obligée de faire quoi que ce soit. Qu'il y ait une action nécessaire, parce que ça, c'est contrôlable. Là, elles ne sont pas du tout contrôlables, parce qu'elles peuvent rester à l'intérieur. Elles peuvent, il y a 100 000 bouteilles, une vie, trois vies, il ne suffirait pas à boire tout ça. Et l'argent, c'est une question d'échange. On ne mange pas l'argent, on ne fume pas non plus, enfin, généralement. Et pour vraiment en profiter, il faut avoir un rapport à l'autre, etc. Bon. Alors que là, un tire-bouchon, ça suffit.
Et ça suffit pourquoi?
Et ça suffit pour le plaisir, justement. Et ça suffit pour profiter de ce dont on est venu faire l'expérience.
C'est ça, ouvrir une bouteille? C'est plaisir et expérience?
Ah oui. C'est aussi temps, mémoire, savoir, culture, territoire, terroir, c'est histoire. C'est très cultivé pour moi, le vin. C'est vraiment l'objet culturel buvable par excellence.
Et comme tout le reste, ça s'apprend? Quand vous dites c'est très cultivé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous a été transmis?
Ah non, ça ne m'a pas été transmis, mais comme tout le reste, ça se pratique. Et on n'apprend pas autrement qu'en pratiquant, que ce soit la littérature, le vin ou le vélo.
Dans le poème de Baudelaire, il est question de n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Et dans votre texte, il est question d'éternité. Que dans cette ivresse-là, elle va ouvrir le temps par en dessous, par le sous-sol, à la verticale, de sorte qu'il va être à la merci de ces femmes-là.
Ouais, c'est chouette. Oui, je pense qu'il y a une expérience immanente aussi, d'éternité immanente, que c'est ça que le vin peut ouvrir et que le texte, la littérature doit ouvrir. Enfin, je pense que c'est ça l'intérêt, que ça ouvre à des moments certes restreints, mais complètement ouverts et d'une densité assez forte pour effectivement casser une linéarité emballée du temps quotidien.
Quand elles disent, je crois que c'est la bombe qui dit on devrait toujours boire comme ça, je ne sais pas comment, je ne sais pas, conscient, nu et dévalisé. Donc ça va au-delà de l'ivresse, je disais, on fait, après avoir lu ça, on fait le vœu de l'ivresse, mais en fait c'est un vœu de dépouillement presque.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est comme ça qu'on doit faire les choses les plus importantes, c'est-à-dire écrire. Aimer, boire.
Être nu et dévalisé. Et conscient.
Et conscient.
Grand travail, non?
Grand travail?
Oui, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on arrive à ça facilement.
Ah non, grand travail, oui. Enfin, j'ai mis longtemps à l'écrire et ça s'écrit pas vite du tout, même si ça se lit vite. Enfin, j'espère. Oui, grand travail.
Grand travail d'écriture, mais moi je disais grand travail pour être conscient, nu et dévalisé.
Ah, pardon. oui. Je sais pas, en fait. C'est aussi des moments qui se présentent, ça. Des moments d'acuité, des moments de basculement aussi. Je pense que c'est ça aussi. C'est tout. C'est ça. C'est ces moments d'apogée où ça va bientôt redescendre ou se détruire. C'est les. Comment on dit, breakpoint.
D'ailleurs, je disais, c'est pas innocent hein, que le typhon plane. Tout est tendu dans ce texte aussi parce que c'est un braquage, donc c'est déjà un breakpoint, mais qu'il arrive à l'orée d'un autre point de rupture pour parler français. Mais on touche peut-être à quelque chose d'important, Céline Minard, quand vous dites c'est un moment. Moi, je dis grand travail parce que je ferais de ça un horizon permanent d'être conscient, nu et dévalisé. En fait, c'est pas possible. En fait, ça n'arrive que dans un petit espace-temps.
Oui. Et je pense que ça correspond à ça, à cette expérience d'éternité immanente. C'est bref et c'est aussi un état de conscience et un état d'être qui tout plein et vaste qu'il est reste dans une s'inscrit ou s'insère dans une temporalité presque fugitive.
C'est pour ça que votre texte il est bref et dense, parce qu'il travaille finalement la même chose, la même force.
Oui, je pense. Il devait avoir cette forme-là. Ça aurait été une absurdité qu'il soit plus long ou plus court, c'est difficile.
Je me sens pas spécialement courageuse, en fait, quand il s'agit de transgresser des normes ou de m'affirmer ou de faire des choix à contre-courant. Et j'aime bien pouvoir... je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait de s'identifier à d'autres femmes qu'on admire et qu'on trouve spécialement, enfin, qui nous donnent une image positive. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stéréotypes négatifs qui traînent et qu'on intériorise aussi en tant que femme. C'est-à-dire, c'est très dur de s'aimer soi-même tout en adoptant une position marginale dans la société. C'est-à-dire en transgressant des normes, en refusant de jouer certains jeux. Autant la célibataire, la vieille femme, la femme qui veut pas d'enfants, bon, chaque fois, ça veut dire, ça implique de se prendre des vagues de désapprobation Et y compris dans sa propre tête. Donc, je crois que c'est très important de pouvoir voir ou lire autour de soi des modèles qui enviables en fait, qui incarnent tous ces, enfin qui déjouent tous ces stéréotypes, qui démentent tous ces stéréotypes extrêmement venimeux et dissuasif en fait.
Très difficile de s'aimer lorsqu'on choisit une place marginale dans la société, dit Mona Chollet. Elle est au micro de Lorraine Bastide pour le podcast La Poudre à l'occasion de la parution de son ouvrage Sorcière. Céline Minard, elle dit que l'une, en gros, des solutions à cette difficulté, c'est de pouvoir lire d'autres choses, vivre d'autres choses, voir d'autres choses. On a assez peu parlé de ces trois femmes-là, peut-être pour leur garder tout le mystère et proposer aux lectrices et lecteurs de les rencontrer en ouvrant le livre. Néanmoins, ce serait pas mal d'en parler quand même, parce que d'une part, elles sont trois femmes, que d'autre part, dans les personnes à l'extérieur, il y a aussi des femmes qui se substituent à des figures habituelles masculines, et que ce sont pas n'importe quelles femmes que vous placez à l'intérieur du bunker, elles sont spécialement explosives, elles aussi, presque dans leur corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces trois braqueuses ?
Moi, je dirais que c'est une bonne équipe. Voilà, qu'elles sont toutes très compétentes dans leur domaine spécifique et qu'elles se sont pas rencontrées pour rien ni par hasard et qu'elles vont faire un bon travail. Mais effectivement, on peut voir trois figures féminines assez différentes les unes des autres et peut-être toutes à leur façon un tout petit peu surprenantes. Même la brune qui a l'air de correspondre au canon habituel cinématographique d'une brune.
Escarpins, longs cheveux, voilà. Sex-appeal, maquillage.
Tout ce qu'il faut. Mais en fait, elle est quand même un petit peu plus inquiétante que ça. La bombe, elle est franchement inquiétante, surtout dans son silence et dans sa technicité. Quant à la clown, je pense que c'est la pire, parce que c'est vraiment l'élément artistique ingérable qui peut mener à la catastrophe.
Et d'ailleurs, c'est une dimension inquiétante pour les personnes qui les regardent de l'extérieur. Est-ce que c'est un spectacle de cabaret, là, les gars ? Est-ce qu'on est en train de regarder un spectacle de clown ? Ou est-ce qu'on assiste à un braquage ? Et c'est cette incertitude qui fragilise ceux qui sont à l'extérieur.
Et oui, bien sûr, ils savent pas ce qui se passe. Normalement, ils savent ce qui se passe. Ils savent si c'est un retranchement, une prise d'otage ou un braquage. Là, ils se demandent si c'est pas les trois en même temps. Et ils ne savent pas si ce qu'elle donne à voir est complètement ironique, complètement hors réalité ou tout à fait effectif et efficace. C'est dans l'interstice de ce questionnement qu'ils vont aussi vaciller dans les décisions qu'ils auraient à prendre peut-être plus rapidement.
Puisque ça va dans le sens de, tout à l'heure vous disiez, il ne faut pas faire des choses qui sont surveillables, il ne faut pas faire des choses qui peuvent être capturées, donc donner à voir quelque chose qui va faire vaciller les certitudes de ceux qui regardent, c'est l'une des solutions à la difficulté dont parlait à l'instant Mona Chollet. Se rendre difficile à déchiffrer.
Ah oui, je pense que c'est nécessaire, comme c'est nécessaire de construire. Enfin, moi, je pense que la littérature construit le monde, donc il faut pas écrire n'importe quoi, effectivement. Et si on a envie de femmes puissantes et compétentes, faut les créer, faut les rencontrer, mais faut les créer et faut les poursuivre, je dirais, mais pas comme un flic. C'est important. C'est performatif. La langue est performative. Elle a des effets réels. C'est une évidence. Donc il faut s'en servir.
Ça veut dire que c'est par exemple un programme, Céline Minard, que ces trois femmes-là, elles sont aussi écrites pour qu'elles existent dans le monde dorénavant et qu'elles puissent être au rang des possibilités d'identification dont Mona Chollet dit qu'elles manquent cruellement.
Oui, mais je me fais plaisir en faisant ça. C'est aussi ce dont j'ai envie. Ce que j'écris, c'est souvent ce que j'ai envie de lire, hein, ce que j'aurais envie de lire et que je trouve pas forcément, même si je cherche beaucoup. Et c'est pas un programme, c'est un désir.
D'ailleurs, il est très question de ça, peut-être qu'on terminera là-dessus, mais c'est un texte bacchante, et on a assez peu parlé de la référence au Dieu, mais c'est un texte où il est question de ça. Il est question du désir, non ?
Oui, je pense qu'effectivement, il est beaucoup question de ça. Du désir du leur, du désir de ces trois femmes, qui n'est pas le même d'ailleurs. Et du désir de Kutzer et de ce qu'il va réussir à accepter ou formuler comme étant son désir. C'est une conversion au désir et au plaisir. Il y a un mouvement, effectivement, de conversion à l'intérieur du texte, de conversion du propriétaire en amateur, où il retrouve, où il découvre ce désir-là, profondément.
Est-ce que vous nous donneriez un indice sur la manière dont vous lisez l'explosion finale ? Je n'ai pas rencontré une lectrice ou un lecteur qui en pense la même chose.
Oui, mais tant mieux.
Très bien. Merci beaucoup Céline Minard. Bacchante, c'est le titre de ce livre publié aux éditions Rivage. Et pour qui se renseigne un peu, on pourra vous rencontrer en librairie. Et puis vous serez à la Maison de la Poésie à Paris le 8 février. Au son ce soir, c'était Alain Joubert à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Un très grand merci à Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Anna Baron, les braqueuses qui, tous les soirs, font péter le bunker de l'intérieur. Très belle soirée dans un instant, le journal.
Recuérdame.